Isabelle Charrière, Le noble conte moral. On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père. La Fontaine. Avis de l'éditeur. Ce joli conte ayant été lu avec plaisir dans le journal étranger, combiné avec l'année littéraire, mois d'août 1762, on a cru devoir le réimprimer séparément pour en rendre la lecture encore plus générale. On a eu grand soin, surtout, de rectifier, d'après le manuscrit, certains passages qui ne rendaient point la pensée de l'auteur. S'il nous parvient quelque autre production semblable de la même main, nous en ferons part au public. Il y avait, dans une des provinces de France, un château très ancien, habité par un vieux rejeton d'une famille encore plus ancienne. Le baron d'Arnonville était très sensible au mérite de cette ancienneté, et il avait raison, car il n'avait pas beaucoup d'autres mérites. Mais son château se serait mieux trouvé d'être un peu plus moderne. Une des tours comblait déjà une partie du fossé. On ne voyait dans le reste qu'un peu d'eau bourbeuse, et les grenouilles y avaient pris la place des poissons. Sa table était frugale, mais tout autour de sa salle à manger régnaient les bois des cerfs tués par ses aïeux. Il se rappelait les jours gras qu'il avait droit de chasse, les jours maigres qu'il avait droit de pêche, et, content de ses droits, il laissait, sans envie, manger des faisans et des carpes aux ignobles financiers. Il dépensait son modique revenu à pousser un procès pour le droit de pendre sur ses terres, et il ne lui serait jamais venu dans l'esprit qu'on pût faire un meilleur usage de son bien, ni laisser à ses enfants quelque chose de mieux que la haute et basse juridiction. L'argent de ses menus plaisirs, il le mettait à faire renouveler les écussons qui bordaient tous les planchers et à faire repeindre ses ancêtres. La baronne d'Arnonville était morte depuis longtemps et lui avait laissé un fils et une fille qui s'appelaient Julie. Le jeune seigneur avait également à se plaindre de la nature et de l'éducation. Cependant, il ne se plaignait pas. Content du nom d'Arnonville et de la connaissance de l'arbre généalogique de sa maison, il se passait de talent et de science. Il chassait quelquefois et mangeait son gibier avec les filles du cabaret voisin. Il buvait beaucoup et jouait tous les soirs avec son domestique. Sa figure était désagréable et il eût fallu de bons yeux pour découvrir chez lui ces traits qui, selon quelques-uns, annoncent infailliblement une illustre naissance. Julie, au contraire, avait de la beauté, des grâces et de l'esprit. Son père lui avait fait lire des traités de blason qu'elle ne goûtait guère, et elle avait lu quelques romans qu'elle goûtait beaucoup plus. Le séjour qu'elle avait fait chez une dame de ses parentes dans la capitale de la province lui avait donné quelques usages du monde. Il n'en faut pas beaucoup pour rendre polie une personne qui a l'esprit pénétrant et le cœur bon. Un peintre qui copiait ses grands-pères et leur quartier lui avait donné des leçons de dessin. Elle peignait des paysages et brodait des fleurs. Elle travaillait avec adresse, elle chantait avec goût, et comme sa figure n'avait besoin ni de beaucoup d'art, ni de beaucoup de magnificence, on la trouvait toujours bien parée. Elle était fort vive et fort gaie, quoique tendre, et il lui échappait quelquefois des railleries sur la noblesse. Mais le respect et l'amitié qu'elle avait pour son père les modéraient toujours. Son père l'aimait aussi, mais il aurait souhaité qu'au lieu de fleurs qu'elle broda sur les écrans des armoiries, qu'au lieu de Télémaque et de Gil Blas, elle étudiât les parchemins rongés qui constataient les titres de la famille. Il était fâché de voir que dans sa chambre, les modernes estampes fussent près de la fenêtre, tandis que les vieux portraits étaient relégués dans un coin obscur. Et souvent, il l'avait grondée de ce qu'elle préférait, une jolie et aimable bourgeoise des environs, à une demoiselle aussi laide que noble et maussade, qui demeurait dans le voisinage. Il aurait voulu qu'elle ne cédât le pas qu'à bonnes enseignes et selon la date des diplômes. Mais Julie ne consultait jamais les diplômes. Elle cédait toujours à l'âge et aurait mieux aimé qu'on la crût roturière qu'arrogante. Par étourderie, elle aurait passé devant une princesse. Par indifférence et par civilité, elle eût laissé passer tout le monde devant elle. Quand le baron d'Arnouville voulait détourner ses enfants d'une chose qu'il condamnait, il disait toujours « Cela ne convient pas à une personne de votre rang. Cela ne répond pas à la noblesse de votre origine. » Il n'employait jamais aucun argument pour leur faire faire quoi que ce fût, ne pensant pas que la parfaite inutilité fût indigne de la haute naissance, ni que ce fût dérogé que de n'être bon à rien. Julie ne voulait point avoir trop d'esprit, et voilà pourquoi ce qu'elle en avait plaisait davantage. Elle savait peu, mais on voyait que c'était faute d'occasion de pouvoir apprendre. Son ignorance n'avait point l'air de la stupidité. Une physionomie vive, douce et riante approchait d'elle tout ce qui la voyait, et son abord gracieux achevait la prévention qu'avait fait naître sa physionomie. Si elle eût affecté un air de grandeur et de réserve, elle aurait fait faire d'autant plus de pas en arrière que son air en avait plus fait faire en avant. Nous voulons plaire d'abord à une personne qui nous plaît. Si elle nous reçoit mal, elle nous mortifie. Irrités contre elle, nous nommons dédain, ce qui n'est peut-être que mauvaise habitude. Elle nous a souvent perdus pour toujours. Julie avait beaucoup plu à une dame de Paris qu'il avait vue chez la parente dont j'ai parlé. Elle la pria de venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Julie obtint la permission de son père. Il lui recommanda de se souvenir de ce qu'elle était et Julie partit. Cette dame était fort riche. Elle avait un fils unique qui cependant était aimable et bien élevé. Il était très bien fait. Julie était belle. Ils se plurent dès qu'ils se virent, et ils ne songèrent d'abord ni à se le dire, ni à se le cacher. Peu à peu, ils se le firent entendre, et ils se trouvèrent encore plus aimables quand ils surent qu'ils se plaisaient. En compagnie, à table, à la promenade, Valincourt disait souvent tout bas, ou à mots couverts, quelque tendresse à Julie. Mais dès qu'ils étaient seuls et qu'il aurait pu tout dire, il ne lui parlait pas. Elle en était surprise, mais pourtant contente. Elle avait lu, ou elle devinait, que l'amour est timide quand il est ardent et délicat. Aucun discours ne lui aurait fait tant de plaisir que ceux de son amant, mais elle aimait encore mieux son silence. Valincourt avait, outre les raisons que Julie sentait, un motif de se taire qu'elle ne savait pas. Elle avait vu qu'il avait les yeux grands, les cheveux blonds, les dents belles. Elle lui avait trouvé beaucoup de douceur, d'esprit et de générosité. Elle avait remarqué de l'ordre, de la décence et de l'opulence dans sa maison. Mais elle avait oublié de demander lequel de ses ancêtres avait été fait noble. Malheureusement, c'était son père qui, par de grands services et de grandes vertus, avait mérité cette distinction. Les sages diraient que, quand c'est de cette façon qu'on a acquis la noblesse, la plus nouvelle est la meilleure, que le premier noble de sa race doit être le plus glorieux d'un titre dont il est l'auteur, que le second vaut mieux que le 20e, et qu'il y avait à présumer que Valincourt ressemblerait plus à son père que Julie à son 30e aïeul. Mais les sages ne sont pas juges compétents de l'ouvrage du préjugé. Valincourt connaissait le préjugé. Il savait jusqu'où le porterait le père de Julie. Le temps de son départ approchait. Tous deux étaient affligés et ils en étaient plus tendres. Comme chacun se retirait pour s'aller coucher, ils se trouvèrent seuls dans un corridor où il n'y avait point de lumière. Valincourt prit la main de Julie et la baisa plus vivement qu'il ne l'avait encore fait. car il l'avait déjà baisée, et Julie, depuis plusieurs jours, ôtait ses gants quand elle croyait devoir donner la main à Valincourt. Le lendemain, ils se trouvèrent dans le même corridor et dans la même obscurité. Alors, Valincourt prit un baiser à Julie, et Julie, qui n'aimait pas à refuser ce qu'elle pouvait donner sans peine, le laissa prendre. Le lendemain, Julie fit en sorte de se trouver dans le corridor. Il y avait de la lumière. Valincourt l'éteignit. Il lui donna un tendre baiser, et puis encore un. Julie aurait voulu les rendre. Heureusement, c'était le dernier soir. Le lendemain, Julie partit. Tant qu'elle avait été avec Valincourt, elle n'avait songé qu'au plaisir de le voir et de l'entendre. Quand elle ne le vit plus, elle sentit la douleur d'en être séparée. Elle pensa au moyen de le revoir et de le voir toujours. Je ne sais ce qu'elle sentit et pensa encore, mais par bonheur, le jeune homme pensait aux mêmes choses de son côté. Un jour, comme elle brodait seule, il entra. Elle se souvint du corridor et rougit. Valincourt ne parut pas s'en souvenir tant il mit de respect dans sa façon de l'aborder. Avec une femme qu'on estime, qui a l'air modeste et décent, un homme met presque en doute les faveurs qu'il en a reçues. Valincourt ne pouvait pas croire qu'il eût osé toucher de ses lèvres le visage de cette divinité. Après les premiers compliments, il retomba dans son silence. Julie ne se croyait plus du tout imposante. Elle trouvait qu'il en avait assez vu pour n'être plus si timide. Et pensant qu'il devait apercevoir une partie de ce qu'elle sentait, elle se fâcha de ce silence. À sa place, se dit-elle, il me semble que je parlerai. En même temps, elle se leva pour sonner, et, comme le laquais est entré dans la chambre, « Vous êtes bien poli, monsieur, dit-elle à Valincourt, de venir de si loin, puisque vous n'avez rien à me dire. Donnez le café, et si mon père est au logis, priez-le d'en venir prendre. » « Ah, mademoiselle, répondit Valincourt, qu'il est difficile de parler quand on pense que de ce qu'on va dire dépend peut-être toute votre félicité ou tout notre malheur. Si je m'y prenais mal, ah, grand Dieu, si je ne disais pas ces mots qui vous persuaderaient. Julie, adorable Julie, dites, que faut-il que je dise? Quel discours, quels motifs, quelles assurances pourraient vous engager à vous donner à moi? Ah, Valincourt, dit Julie, avec un regard et un soupir qui promettaient tout, qui répondaient oui à tout ce qu'il aurait voulu dire. Valincourt, qui les entendait, n'en demanda pas davantage. Hors de lui-même, il prend ses mains et les baise avec transport. Il ose même, il ose, en plein jour, presser sa bouche sur la sienne. Le père eût pu entrer, mais il n'y pensait pas. Qu'aurait-il prévu, qu'aurait-il craint dans leur délire? Il fut court cependant. Julie s'alarma de l'ardeur de son amant et de sa propre complaisance. « Laissez, laissez-moi, dit-elle à Valincourt, nous nous oublions. » Dans ce moment, ils entendirent du bruit et se hâtèrent de se rasseoir. Julie baissa la tête sur son ouvrage pour cacher son désordre. Le jeune homme alla au-devant de M. d'Arnonville avec un air de soumission qui parut le prévenir en sa faveur. « J'ai pris, monsieur, la liberté de venir voir mademoiselle votre fille, avec qui mon bonheur m'a fait faire connaissance. » « N'aviez-vous jamais vu mon château ?»« Non, monsieur, je n'avais jamais eu de prétexte pour oser venir vous rendre mes devoirs. » « Il mérite bien qu'on le voie, dit le vieux seigneur. » Un baron d'Arnonville, dont le trisaïeul avait été créé chevalier sous Clovis, le fit bâtir en 624. Il n'est pas étonnant qu'il le fît faire aussi vaste que vous le voyez. Dans ce temps-là, la noblesse était respectée comme elle doit l'être. Elle était riche et puissante. Aussi, était-elle bien plus pure et bien plus rare qu'aujourd'hui. À présent, c'est une récompense ordinaire. Rien n'est si commun. Et je ne fais nul cas de ces petits nobles sans aïeux. « Nous en avons, dit Julie, depuis le grenier jusqu'à la cave. Et la plupart des anciennes familles, continua le baron, se sont corrompues par des mésalliances. Il en est bien peu, j'ose le dire, qui se soient, comme les d'Arnonville, soutenus dans toute leur pureté. Aussi, j'espère bien que mes enfants... C'est sans doute, interrompit le jeune homme qui n'y pouvait plus tenir, c'est sans doute une satisfaction et un motif de plus pour être vertueux que de trouver dans ses ancêtres des exemples de vertu et d'amour pour la patrie. Quand on joint à un grand nom un grand mérite, et qu'au lieu de la vanité, puisque vous n'avez jamais vu le château, vous n'avez jamais vu les portraits, il faut que je vous les montre. Cela ne pourra que vous être utile pour l'étude de l'histoire. Monsieur, voulez-vous me suivre ? Mademoiselle nous accompagne-t-elle ? Dit Valincourt d'un ton affligé. Non, répondit en riant Julie. J'ai assez vécu avec mes grands-pères et je les connais bien. Julie resta à son ouvrage, ou plutôt à sa rêverie. Dieu, qu'elle était agréable ! Jamais moment de solitude n'avait été pour elle plus délicieux. Mais que Valincourt était triste ! Le baron, à qui il plaisait, ne lui épargnait pas un portrait, pas un écusson, pas une anecdote, et chaque portrait, chaque écusson, amenait une réflexion qui perçait le cœur du pauvre Valincourt. Ce n'est pas qu'il fût mortifié d'une si ridicule ostentation. Il n'aurait pas voulu tenir sa noblesse du roi Ninus à la charge d'être aussi vain et aussi fou que le baron d'Arnonville. Mais Julie... Enfin, il entra dans sa chambre et il tressaillit. Pendant que le père s'embarrassait de l'histoire du premier de ses ancêtres, que le pinceau eût transmis à la postérité, Valincourt parcourait des yeux l'ouvrage du goût de la fille. Il vit sur une table un paysage qu'elle avait fini, un autre commencé, et parmi ses pinceaux et ses couleurs, il vit un petit catéchisme, Segrais, Racine et Gil Blas. Il vit les belles estampes qu'elle préférait aux vieux portraits, il vit des fleurs, mais il ne vit plus rien de tout le reste quand il eut aperçu le portrait de Julie. Il était crayonné en petit, il était ressemblant. Valincourt ne songea plus qu'à détourner les yeux du père. « Quel est cet homme respectable, dit-il, qui est là, monsieur, derrière vous ?» Le baron se tourna. « C'est celui dont je vous ai tant parlé, n'avez-vous pas entendu ?»« Ah, monsieur, pardon, je me le rappelle. » Valincourt avait le portrait et ne désirait plus rien. Mais voyant que le père recommençait, il prit le joli paysage qui était à sa bienséance. Enfin, ils sortirent de cette chambre. « C'est donc là, dit tout bas Valincourt en la regardant encore, c'est donc là qu'habite, que repose tant de charme. C'est donc là, dit le baron, que sont mes plus anciens portraits. Nous avons fini par ce qu'il y a de plus curieux. J'avais gardé ceci pour la bonne mouche. Vous avez bien raison, monsieur, dit Valincourt, qui souriait malgré sa détresse. Il n'y a rien de si précieux que les peintures de cette chambre. Et puis il le remercia, avec toutes les démonstrations de la reconnaissance, mais il avait la mort dans l'âme. N'est-il pas vrai, dit Julie, lorsqu'ils la rejoignirent, que je suis riche en grand-père? Mes grand-mères ne sont pas belles, mais cela ne fait rien, elles sont anciennes. Je compte me faire peindre bien des fois. Belle ou laide, dans 300 ans, mon portrait vaudra son pesant d'or. Ah, mademoiselle, dit Valincourt, votre portrait ne sera pas si cher, si précieux qu'il l'est aujourd'hui. Alors peut-être la vanité le vénérera. Aujourd'hui, l'amour l'adore. « L'avez-vous vu, monsieur ?»« Oui, mademoiselle, vous verrez que je l'ai vu comme je devais le voir. J'ai vu aussi vos livres et vos paysages. Ne vous êtes-vous pas fort amusée à voir mes ancêtres ?»« Non, mademoiselle, je n'ai regardé que ce qui avait rapport à vous. » Ceci se disait à mi-voix. Julie souriait et Valincourt était bien aise de voir que la fille n'eut pas le même respect pour l'ancienneté que son père. Il était tard, Valincourt prit congé d'eux et s'en alla. « Ce jeune homme est-il ton amant ? » dit le baron à sa fille. « Je crois que oui, mon père. pense-t-il à t'épouser ?
Oui, mon père.
Est-il gentilhomme ?
Julie n'en savait rien, mais le supposa et dit encore oui.
D'une ancienne famille ?
Oui, mon père.
D'où tirent-ils leur origine ?
De Renaud de Montauban, répondit Julie par un mouvement de gaieté plutôt que par politique.
Quoi, ma fille ? De Renaud de Montauban ? Mon Dieu, que tu serais heureuse ! Quelle joie pour moi de te voir ainsi mariée ! En disant cela, il l'embrassa avec une tendresse qui la déconcerta. Elle se repentit de lui en avoir imposé sur une chose qui lui paraissait si importante et craignait les conséquences de son badinage s'il venait à se découvrir. Elle s'indigna aussi de tant de folie, et tous ses sentiments ensemble l'agitèrent si fort qu'elle fut obligée de se retirer. Elle s'assit dans sa chambre, les deux bras appuyés sur sa toilette et sa tête baissée sur ses mains. « Mon père ne demande pas, disait-elle, s'il est vertueux, s'il est sage, s'il a le cœur bon. Il demande si sa famille est ancienne. Sur cette assurance, il me donnait lui. Ah, si Valincourt allait n'être pas si noble, il me refuserait. Il serait d'autant plus inflexible que je l'ai trompé. Mon Dieu, quelle imprudence ! Mon Dieu, combien ne suis-je pas coupable ? » Elle rêva encore quelque temps avec cette tristesse. Puis, se levant et se promenant par la chambre, elle voulut regarder pour se distraire le paysage dont Valincourt avait parlé. Ne le trouvant point, elle alla à son portrait. Alors elle comprit ce que Valincourt avait voulu lui dire. Ce vol lui parut aussi plaisant que tendre. Elle s'imagina voir son père disant d'un côté « Voilà Jean-Français Alexandre d'Arnonville », pendant que Valincourt pensait « Voilà Julie d'Arnonville ». Il faut l'emporter. Quand une jeune fille se voit tendrement aimée de son amant, ses chagrins sont aisément adoucis. Ce fond de joie rend son cœur facile à s'égayer. Julie trouva que si Valincourt ne descendait pas de Renaud, il descendrait de quelque autre, qu'elle pourrait faire passer sa tricherie pour une erreur, que peut-être aussi il ne serait pas impossible d'en tirer parti, qu'il faudrait prévenir Valincourt et concerter avec lui sa généalogie. Si les motifs raisonnables ne touchent pas mon père, disait-elle, ne me sera-t-il pas permis de le tromper un peu ? Devrions-nous être les victimes d'un préjugé si ridicule ? Cette morale un peu relâchée l'accommodait. Elle s'y arrêta. Il lui vint dans l'esprit d'écrire à Valincourt pour l'avertir. Elle prit l'écritoire, les plumes et le papier. Elle imagina le moyen de faire parvenir sa lettre. Et je jurerais qu'elle aurait écrit si elle eût été sûre de son style et de son orthographe. Mais Julie passa légèrement sur ses véritables motifs de ne point écrire. Elle se persuada, en remettant tout cet attirail, que la prudence, la réserve, la modestie, le respect des bienséances l'arrêtaient, et elle s'applaudit des vertus qu'elle n'avait pas. On vint appeler Julie pour le souper. Déjà, son père avait fait part de ses espérances au jeune baron. À peine ils purent se contenir en présence des domestiques. Dès qu'ils furent envoyés, on but à la santé du descendant de Renaud. Mais Julie, ne pouvant supporter le spectacle de leur joie, se retira encore une fois, également honteuse de sa faute et de leur extravagance. Seule dans sa chambre, elle se mit à pleurer. L'amour, le repentir, la crainte, l'espérance se confondaient dans son cœur et l'oppressaient. Une jeune personne, agitée par différents sentiments, quand elle ne sait plus comment les démêler, pour se tirer d'embarras, elle pleure. Julie, ayant cessé de répandre des larmes, le chaos qui l'accablait se trouva presque dissipé. Il ne lui resta bientôt plus que l'idée de son amant. Elle le vit tel qu'il lui avait paru au premier instant de leur connaissance. Elle se rappela les marques de sa tendresse. Elle se reprochait tantôt d'y avoir trop répondu pour la décence, puis de n'y avoir pas assez répondu pour l'amour. Elle se souvint des baisers. qui sait si elle ne souhaita pas de les recevoir encore. Enfin, elle se coucha, et en se couchant, elle trouvait qu'il y avait bien longtemps qu'elle n'avait vu son lit. « N'était-ce donc que ce matin, disait-elle, que je me suis levée? N'est-ce que cet après-dîner que Valincourt est venu ?» Jamais journée ne lui avait paru si longue, parce que jamais journée n'avait été pour elle si remplie de sensations diverses et si intéressantes. Elle ne pouvait concevoir qu'elle eût senti et pensé tant de choses, qu'elle eût eu tant de joie et de chagrin en si peu de temps. Julie n'est pas la seule à qui le temps paraisse encore plus long dans la succession rapide d'impressions variées que dans la longueur de l'inaction. Julie s'endormit malgré la tendresse. Ses songes ne lui annoncèrent rien de fâcheux. Le lendemain, nul pressentiment ne la troubla. Elle passa la matinée à peindre dans sa chambre. Son père dînait au château voisin. Son frère chassait. Ainsi elle était seule. Combien de fois ne souhaita-t-elle pas que Valincourt vînt troubler cette solitude et mettre à profit des moments qui coulaient pour rien. S'étant mise à lire sur un banc de l'avenue, elle le vit enfin venir, mais il était avec son père. Il avait regardé le portrait de sa maîtresse une partie de la nuit et une partie du jour, mais il voulut revoir sa maîtresse elle-même. Il se mit pour cela en chemin d'abord après dîner et rencontra M. d'Arnonville qui retournait chez lui. Le baron ne tarda pas à lui parler de la chose qui occupait uniquement son cœur. « J'ai appris, monsieur, lui dit-il, après avoir fait bien des révérences, j'ai appris que vous aimiez ma fille et que vous songiez à l'épouser. » Valincourt, étonné, ne répondit à ce début que par une profonde inclination. La surprise, l'inquiétude étaient peintes sur son visage et le rendaient muet. « Mon sort va être décidé, disait-il en lui-même. Bon Dieu, que va-t-il dire ? » Cet empressement à lui parler de son amour annonçait un bonheur ou un malheur extraordinaire. Il n'osait presque écouter. « Je suis décidé depuis longtemps, monsieur, continua le baron d'un air gracieux, à ne donner ma fille qu'à un homme d'une naissance illustre. Les d'Arnonville ne feront déshonneur à aucune famille. Ils peuvent prétendre à tout. Mes ancêtres. Ah, monsieur, s'écria imprudemment l'amoureux Valincourt, je connais toute votre supériorité. Je sais que je ne suis pas digne de votre alliance. Mais si l'amour le plus tendre et le plus respectueux, le désir le plus vif de rendre heureuse votre aimable fille, pouvait me tenir lieu d'une noblesse plus ancienne, si l'honneur, la probité, mon dévouement pour vous. Dans ce moment, Julie s'était approchée. Elle avait entendu ce que disait Valincourt, et sa confusion expliqua tout ce mystère. Valincourt était tourné de façon qu'il ne voyait point encore Julie. Mais le père n'écoutait déjà plus Valincourt. Il jeta sur elle un regard qui la fit tomber à ses pieds. Valincourt, interrompu par ce mouvement, regardait la fille et le père sans pouvoir comprendre ce qui occasionnait une scène si touchante. Il ne savait que penser ni que dire. Julie, les yeux baissés vers la terre, laissait couler ses pleurs et gardait le silence. Le père furieux ne pouvait parler. Enfin, recouvrant la parole, « Fille indigne de moi et de mes aïeux, dit-il, vous avez donc voulu tromper votre père. Tout ce que vous m'avez dit de la naissance de votre amant n'est donc qu'une fable. » « Ah, mon père, répondit Julie, je suis criminelle, mais j'aimais Valincourt. » « Quoi, Julie, c'est moi qui vous trahis ? S'écria-t-il. « Je devais deviner, je devais me taire. « Ah, c'est pour moi que vous êtes coupable et c'est moi qui vous trahis. » « Monsieur, continua-t-il en se mettant à genoux à côté de Julie, « Monsieur, pardonnez une faute que l'amour a fait commettre et qu'ainsi nous partageons. « Permettez-moi d'aimer votre fille. « Ses grâces, son esprit, la beauté de son âme aussi bien que sa naissance « l'élève forte au-dessus de moi. Elle mérite un trône. Mais un roi ne serait pas plus tendre. Jamais elle ne trouvera tant d'amour que dans mon cœur. Jamais ses perfections ne seront mieux adorées.
Encore une fois, permettez que je l'aime, que je la voie, que je vous voie, et votre propre jugement décidera de mon sort. »
Renaud de Montauban, dit le père sans paraître l'avoir entendu.
« Depuis combien d'années votre famille a-t-elle ses titres de noblesse ?»
Valincourt ne répondait rien.
« Parlez, lui dit Julie, soyez plus sincère et plus généreux que moi. »
« Depuis 35 ans. »«
35 ans ? Et je donnerai ma fille. Allez, mademoiselle, allez pleurer votre honte et ne reparaissez pas devant moi. Et vous, monsieur, qu'on ne vous revoie plus ici. »
« Ôtez-vous à l'instant de mes yeux, » dit-il à Julie, qui continuait à pleurer, à genoux.
« Aurais-je cru que vous puissiez oublier jusque-là votre origine ? Vous méritez bien peu d'être né ce que vous êtes. »
« Sans doute, » dit Valincourt, en aidant Julie à se relever, « elle ne méritait pas un père tel que vous. »
Il en aurait dit davantage si un regard de Julie ne lui eût imposé silence. Et comme elle prenait en pleurant le chemin du château, l'amant désespéré s'éloigna, en maudissant son sort et la noblesse. Pour le baron d'Arnouville, outré, indigné, ne pouvant marcher tant il était ému, il s'assit sur le même banc où quelques moments plus tôt lisait et rêvait paisiblement Julie. Ayant fait appeler sa ménagère par un ouvrier qui travaillait dans le jardin, il lui apprit l'aventure en peu de mots, et lui ordonna de veiller à ce que Julie ne pût sortir de sa chambre, ni recevoir des nouvelles de son amant. Cette vieille, qui était une des archives du château, et qui depuis une enfance très reculée, n'entendait et ne voyait que les folies de ses maîtres, était presque aussi chaude sur la noblesse que le baron. Elle entra de tout son cœur dans son ressentiment, et courut enfermer et haranguer sa jeune maîtresse. Julie, quoique naturellement douce, s'indigna d'un traitement si dur, et, lorsque la vieille, ayant expliqué sa commission, commença à dire « Pour une demoiselle de votre rang, taisez-vous, lui dit-elle, j'en ai assez entendu de ces extravagances. Enfermez-moi, mais sortez. » Deux jours, Julie ne voulut ni écouter ni répondre. Elle mangeait peu, elle ne dormait point, elle pleurait beaucoup. Le baron, resté seul sur le banc, disait « Un petit noble de nouvelle date présume de s'allier à moi et ma fille l'écoute. D'un côté, quelle audace, de l'autre, quelle lâcheté !» Il dit cela tout seul jusqu'à la nuit tombante. Il le dit ensuite à son fils. Il le dit la nuit dans son rêve. Et le lendemain, faisant le tour de ses portraits, il crut y voir le reproche et l'indignation. Le troisième jour, le vent ayant abattu une partie du pigeonnier et la girouette où étaient gravées les armes d'Arnonville étant tombée à ses yeux du haut de la tour dans un fossé bourbeux, son esprit fut saisi des plus vives craintes. Il se coucha, l'imagination frappée de ses effrayants augures. Et à peine le sommeil eut versé sur lui ses pavots, qu'il vit les mânes de ses ancêtres, armés de pied en cap, s'approcher de son lit d'un air consterné. Le baron, s'éveillant en sursaut, les pria d'apparaître à sa fille. Mais les ombres antiques n'en firent rien. Julie, ayant reçu sur le soir un billet de Valincourt, dormait tranquillement. Ses songes étaient l'ouvrage de l'amour et de l'espérance. Valincourt s'était adressé pour lui faire tenir ce billet à la fille du jardinier, que l'affabilité de Julie lui avait attachée. Cette fille se chargea volontiers de la commission et demanda à la vieille geôlière la permission de porter elle-même des fruits à Julie. Mademoiselle Dutour, qui n'était au fond pas méchante, et à qui le chagrin de sa maîtresse commençait à inspirer de la pitié, y consentit. Et la jeune fille, après avoir un peu causé avec Julie, lui dit tout bas qu'au fond du panier de fruits, elle trouverait une lettre. Julie ne fut pas plutôt seule qu'elle l'ouvrit. Et voici ce qu'elle lut. « Belle et tendre Julie, puisque vous connaissez l'amour,
il serait inutile de vous dire ce que je sens et ce que je souffre. Et d'ailleurs, comment ma plume pourrait-elle l'exprimer? Mon dessein est de vous assurer qu'il n'est rien que je n'entreprenne, rien que je ne hasarde, pour vous tirer des mains cruelles qui nous séparent. Pourriez-vous n'y pas consentir, Julie? Pourriez-vous adopter une ridicule prévention? Si je croyais que vous puissiez vous repentir un instant, si vous pouviez être moins heureuse. Dieu m'est témoin que je renoncerai à tout mon bonheur pour vous épargner un regret. Dites, mademoiselle, craignez-vous les regrets? Ma naissance, pardon, Julie, vous m'aimez, et j'ose soupçonner votre cœur. Jugeriez-vous indigne de votre main celui que vous ne jugez pas indigne de votre tendresse? N'est-ce pas pour moi que vous souffrez? Fiez-vous-en à mon amour, charmante Julie. Nous ne souffrirons pas longtemps. Julie l'en crut sans trop savoir pourquoi. Elle lut, elle relut le charmant billet. Et en le lisant, l'espoir, la gaieté même, renaissait dans son cœur. Elle mangea, elle dormit. Le lendemain, elle reprit son ouvrage et sa peinture. Mademoiselle Dutour la trouva douce et affable comme auparavant. Et enfin, elle eut le plaisir de haranguer sans être interrompue. Le jour suivant, la petite fille revint avec sa corbeille, pendant que Mademoiselle Dutour disait « De la naissance dont vous êtes, vous pouvez aspirer aux parties les plus nobles. » « Cela se peut bien, » répondit en souriant Julie. Mademoiselle Dutour, ignorant la vertu secrète de la corbeille, crut voir dans sa gaieté une preuve de ce qu'elle avait autrefois éprouvé elle-même, que rien ne console mieux d'un amant que l'idée d'un autre amant. Elle continuait donc à lui dire « Votre mari sera grand seigneur, vous aurez un grand château et vous serez bien contente. » « Cela se pourrait bien, » dit Julie d'un air encore plus riant et plus doux. Mademoiselle Dutour, se croyant bien avancée, sortit en s'applaudissant pour dire au baron qu'il n'y avait qu'à la laisser faire et que dans 2 jours, Julie aurait oublié son amant. Mais elle ne trouva personne à qui communiquer son art et sa joie. Le baron était sorti pour se distraire et fit dire qu'il ne reviendrait que le lendemain. Julie se hâta de profiter de l'absence de la gouvernante pour lire la lettre de Valincourt. Il lui disait qu'ayant tout examiné, il jugeait son évasion facile, que sa fenêtre était basse, que cet endroit du fossé était presque comblé, qu'il l'attendrait dans l'avenue à l'entrée de la nuit et qu'une voiture légère pourrait les mener avant le jour dans une ville peu éloignée où il se jurerait un amour inviolable au pied de l'autel. « Je ne doute plus de mon bonheur, » continuait-il, « puisqu'il dépend de vous, chère Julie, ce serait vous faire injure. L'amour vous donne à moi, ses droits sont sacrés. » À minuit, quand la lune commencera à dissiper les ténèbres, quittez la triste prison où le barbare préjugé vous retient, et que l'amour vous conduise dans les bras de votre amant. Je ne demande point de réponse. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. C'était tout me promettre. À minuit, Julie. Quel moment, quel plaisir. Julie laissa tomber la lettre et resta quelque temps immobile. Un sentiment mêlé de surprise et de joie, tel que le fait naître l'apparition inattendue d'un objet agréable, mais tout nouveau, tint quelque temps ses pensées comme suspendues. Un enlèvement, ce soir même. Quitter la maison de son père et se donner à Valincourt. Julie se leva enfin et, sans s'avouer ses intentions, elle ouvrit sa fenêtre et regarda si, effectivement, il était si facile d'en sortir. Voyant que de ce côté il n'y avait rien d'impossible, elle releva la lettre et la lut encore une fois. « Il est vrai, dit-elle, que le préjugé qui me retient ici est aussi barbare qu'extravagant. Il est vrai que je dis que je l'aime. Valincourt ne doute pas de mon consentement. Ce serait, dit-il, m'offenser. Je suis à lui, il m'attendra. » Le même ton d'autorité qui rend un mari si odieux, combien n'est-il pas favorable à un amant? Avec le même art que l'on élude les droits de l'un parce qu'on les hait, on grossit les droits de l'autre parce qu'on les aime. On ne veut plus de sa liberté lorsqu'il faudrait l'employer contre le penchant. Si Valincourt eût supplié, s'il eût demandé un consentement comme doutant de l'obtenir, peut-être Julie n'eût osé se rendre. Mais Valincourt exigea, et Julie ne crut pas pouvoir désobéir. Valincourt eut eu sans doute assez de peine à expliquer ses droits sacrés de l'amour qu'il réclamait avec tant d'assurance. Mais Julie ne demandait point d'explication, point de preuve. Elle en crut sur sa parole, et elle pensa être déterminée moins par sa passion que par un certain devoir inviolable que pourtant elle ne comprenait pas. La voilà donc presque résolue. Elle verse des larmes en pensant au père qu'elle abandonne, à ce séjour qui la vit naître et qu'elle va quitter. Mais elle pense à son amant, et ses pleurs se sèchent. « Je serai donc, s'écrie-t-elle, je serai donc à lui pour jamais. » Alors, elle retourne à la fenêtre, et, examinant avec plus d'attention, elle voit que, précisément, à l'endroit où il faudrait descendre, il y avait un creux, où l'eau de la pluie qui était tombée ce jour-là s'était arrêtée. Il fallait combler ce creux. De quoi se servir? Julie regarde autour d'elle, et voyant les portraits de ses aïeux, « Vous me rendrez, dit-elle, au moins ce service. » Et elle sauta, aussitôt, en riant, sur une chaise, pour dépendre Jean-Français Alexandre d'Arnonville. Comme elle le tenait, montée encore sur sa chaise, Mademoiselle Dutour entra. « Que faites-vous, mademoiselle ?»« ma bonne, ne ferais-je pas bien d'envoyer ce portrait chez le peintre ? Si j'épouse, comme vous le croyez, le seigneur d'un vieux château, je voudrais y mettre le premier baron de la famille. » Mademoiselle Dutour ne désapprouva pas, comme on peut croire, cette idée, et en prit occasion de discourir très longuement sur le néant des plaisirs de l'amour et la solidité des avantages de la noblesse. Julie, toujours gaie et folâtre, voulut savoir si cette fée avait jamais connu ce qu'elle méprisait. Et la Dutour lui conta que si son amant avait été marmiton d'un duc, elle l'aurait écouté. Mais il n'était marmiton que d'un comte. Quand la ménagère fut sortie, Julie fit un paquet de ce qu'elle avait de plus précieux. Et comme le jour commençait à baisser, elle se mit à préparer sa fuite. Le grand-père fut jeté dans la boue, et celui-là ne suffisant pas fut suivi d'un second puis d'un troisième. Jamais Julie n'avait cru qu'on pût tirer si bon parti des grands-pères. Ce nouvel usage la divertissait. Cependant, elle était fort agitée, et si d'un côté son cœur se délectait dans l'espoir d'être à son amant, de l'autre il saignait pour son père. Ah, que les principes d'une bonne éducation eussent été puissants sur une âme naturellement vertueuse et encore incertaine. Mais les arguments pour le devoir qu'avait toujours employé le père étaient encore moins solides que ceux de l'amant pour l'amour. La petite fille vint chercher son panier. Ne sachant pas le contenu des lettres qu'elle avait portées, et croyant qu'une réponse de Julie ferait grand plaisir à Valincourt, elle demanda si on ne lui donnait point d'ordre. Julie hésita. C'était le moment de détruire les espérances de Valincourt. Elle pâlit, elle rougit. « Non, dit-elle enfin d'une voix tremblante. » Et puis elle fit un présent à la fille du jardinier. À 8 heures, son frère vint la voir. C'était la première fois. Après quelques railleries assez peu délicates, il lui raconta qu'il avait fait l'honneur à un petit parvenu de jouer avec lui un jeu qu'il entendait très bien et que l'autre n'entendait point du tout. Et que, charmé de trouver une dupe, il avait joué tout le jour et gagné une somme considérable. On n'est jamais plus sévère pour une faute dont on se sent incapable que quand on en a quelque autre à se reprocher. Julie lui dit que c'était bien lâche et bien honteux. Il lui fit une réponse méprisante et s'en alla. « Je serai bientôt éloignée, dit-elle,
de cette aimable noblesse. C'est peut-être avec un pareil personnage qu'on me condamnerait à passer ma vie. Encore, s'il avait bien des quartiers, on me croirait trop heureuse. Ou bien qu'ils entrent dans l'ordre de Malte, ces grands seigneurs. Cela leur est dû. Valincourt ne s'y oppose point. Il leur en cède, je pense, sans envie, l'honneur et les vœux. Mais mon cœur et ma main n'ont rien de commun avec la croix de Malte. Elle acheva de préparer sa sortie jusqu'à ce que la ménagère vînt lui porter à souper. Elle se coucha ensuite pour qu'on ne soupçonnât rien. Lorsque tout fut endormi, depuis le jeune baron jusqu'à ses meilleurs amis, les chiens de chasse, elle se releva. Elle s'habilla à la hâte et légèrement, sans lumière, et par conséquent sans miroir. Elle pensait bien que la nuit, à la faible lueur de la lune, Valincourt ne s'amuserait pas à contempler son ajustement. La lune paraît, la fenêtre s'ouvre, minuit sonne, Julie jette le paquet, elle monte sur la fenêtre, elle redescend, elle monte encore. Quelque chose la retient. Elle croit entendre son père. Mais que lui dit-il pour l'arrêter? Il lui parle de son nom, de sa naissance, de l'honneur de son origine qu'elle avait à soutenir. Julie trouva que tout cela ne faisait rien à l'affaire et qu'elle ne devait pas être plus malheureuse que sa servante, à qui il était donc apparemment permis de se faire enlever. L'amour lui présente des motifs moins faibles, il la détermine, et Julie saute lestement sur le visage d'un de ses ancêtres qui seront sous ses pieds. Le bruit éveilla la ménagère qui ne couchait pas loin de là, mais pensant que c'était quelqu'un de ces esprits qui honorent fréquemment de leur visite les anciens châteaux, elle se contenta de dire un Ave Maria en s'enfonçant dans ses coussins, et cette fois, les revenants furent bons à quelque chose. Julie s'avance à travers des ruines. Elle entre dans la cour. Un chien s'éveille, mais il ne trahit point l'aimable maîtresse qui l'a caressée tant de fois. Elle veut sortir par une petite porte qui malheureusement était fermée. Elle revient sur ses pas en tremblant. « Dieu, que deviendrai-je, dit-elle, si je ne trouve point d'issue ?» Un vieux petit mur la lui fermait. Elle essaie de monter dessus. Les briques étaient unies depuis si longtemps qu'elles se séparèrent sans peine. Julie passe en bénissant cette fois l'ancienneté. La voilà dans l'avenue, la voilà avec son amant. Ne nous mettons point en peine de ce qu'ils devinrent. Le lendemain, quand on porta la terrible nouvelle au vieux baron, il tomba sans connaissance. En revenant à lui, après bien du temps et des drogues, il disait d'une voix presque éteinte, « Un nouveau noble, ô mes ancêtres, ô mon sang, éternel opprobre !» On craignait qu'il ne mourût de douleur. En vain, un homme raisonnable qui se trouvait là lui représentait que la noblesse était un préjugé pour le mérite, et qu'un mérite reconnu comme celui de Valincourt n'avait plus besoin de préjugés. Qu'on ne peut jamais s'attribuer le mérite d'autrui, et que quand on le pourrait, un noble ne s'en trouverait souvent pas plus qu'un autre. Que l'empereur, qui a donné les titres, peut avoir été un malhonnête homme ou un sot. Ce discours blasphématoire fut interrompu par une seconde pâmoison, plus longue encore que la première. C'en était fait, je pense, du baron, si une lettre bien consolante ne l'eût rappelé à la vie. Le sort le dédommageait de l'acquisition d'un gendre riche, beau et tout aimable, en lui offrant la bru la plus désagréable qu'on puisse imaginer. Il accepta avec joie cette compensation. Il rendit grâce au ciel et admira la sagesse de la Providence qui dispense avec égalité les biens et les maux. Il n'est pas besoin de dire que la demoiselle était complètement noble. On n'en voyait pas son portrait, mais son arbre généalogique. Et il était tel que le père n'hésita pas. Le fils avait ouï dire qu'elle était louche et bossue. Mais l'honneur de joindre ses armes et ses quartiers aux siens le fit passer sur tous les désagréments du reste. Il comptait bien d'ailleurs se consoler avec des créatures moins nobles et moins laides, et il avait trop de grandeur d'âme pour penser qu'il fallut aimer celle qu'on épousait. Le mariage fut donc bientôt résolu. Julie, en ayant appris la nouvelle, s'informa du jour des noces. À la fin du repas, le père d'Arnouville, rappelant la vigueur de ses jeunes ans, célébra par Verhasad une union si bien assortie. Lorsque le vin commençait à confondre dans sa tête l'ancienne et la nouvelle noblesse, Valincourt et Julie entrèrent dans la salle et se jetèrent à ses pieds. Ayant perdu une partie de ce qu'il appelait sa raison, il ne sentit que sa tendresse et pardonna. Julie fut heureuse et ses fils ne furent point chevaliers.